Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, c'est le carnet nomade et Colette Fellous, un jour à Rome avec Jacqueline Risset. À la suite du carnet précédent consacré au Palais Farnèse de Rome et à l'exposition qui s'y donne jusqu'en avril prochain, une exposition qui raconte l'histoire des collections de ce palais, c'est encore à Rome que nous resterons aujourd'hui dans ce rendez-vous pris avec Jacqueline Risset, chez elle. Jacqueline Risset, dont la traduction intégrale en français de l'œuvre de Dante, La Divine Comédie, vient de paraître dans la collection Garnier Flammarion. C'est la première traduction sans le texte italien. Les trois volumes bilingues précédemment parus étant bien entendu disponibles également en Garnier Flammarion pour ceux qui aiment lire les deux langues juxtaposées. Jacqueline Risset est poète, essayiste, on l'a entendu récemment ici parler de l'œuvre de Proust, traductrice donc, mais aussi professeure de littérature française à l'Université de Rome III. Sa passion pour Dante est aussi une passion de poète, car la traduction pour elle est une création poétique à part entière. On sait que Dante, qui est né en 1265 à Florence et mort en 1321, a été le fondateur de la poésie italienne du Moyen-Âge, et son chef-d'œuvre, La Divine Comédie, est un voyage prodigieux qui, curieusement, trouve des échos dans notre vie. Et d'ailleurs, dans sa préface, Jacqueline Risset dit « La Divine Comédie n'est pas seulement, comme on a pu le croire parfois, le monument majestueux d'une culture passée, mais un poème vivant qui nous touche tout à coup, de très près, en certains points de son texte, à chaque fois différents et imprévisibles. Ces points ne se trouvent pas uniquement dans l'enfer, qu'aimaient tant nos prédécesseurs du XIXe siècle, moins pour les supplices et pour les démons qui l'habitent et qui appartiennent depuis Walter Scott et les romans noirs anglais au genre fantastique, que pour la variété des vices qu'il pouvait y reconnaître. Il le trouvait plus humain. Mais nous, qui avons connu le XXe siècle et ses terribles péripéties, nous pouvons nous dire experts en enfer, plus encore que les contemporains de Gustave Doré. Et nous sommes, paradoxalement, plus que touchés par le purgatoire et par le paradis, qui nous semble plus proche, mais aussi surtout pour le paradis, porteur de possibilités poétiques qui nous étonnent. Carnet nomade, un jour à Rome, avec Jacqueline Risset. C'était le lendemain de ce fameux 14 décembre, le 14 décembre dernier, où à Rome, il y eut de grandes manifestations sur la Piazza del Popolo, au moment où le Parlement accordait sa confiance au Premier ministre Silvio Berlusconi avec une très courte majorité à la Chambre des députés. Il y a eu de grands affrontements, on a même parlé de guérilla urbaine, des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fiore.
Carnet nomade, un jour à Rome, première scène, chez Jacqueline Risset. Voilà une journée ensoleillée qui s'ouvre dans Rome, Jacqueline Risset. Rome qui est votre deuxième ville, parce que vous vivez entre Paris et Rome, mais ça fait maintenant très très longtemps que vous êtes à Rome.
Ah oui, plus de 30 ans je crois. Et c'est une ville que j'aime énormément, même si de temps en temps j'ai des accès de haine. Disons que je voudrais m'en aller absolument, et je pense à rentrer à Paris, mais ça c'est la situation politique qui fait ça. Et la ville elle-même, je crois que j'y suis de plus en plus attachée. C'est une ville qui a une... enfin tout le monde le sait, mais c'est un charme, mais à y vivre on la sent encore plus, parce que c'est, on sent comme un privilège le fait de sortir le matin et de traverser des endroits tous plus beaux les uns que les autres. Il y a un mélange à Rome de tous les styles qui est en même temps aussi, je crois, très formateur, parce que on apprend à aimer les strates différentes, à ne pas se contenter d'un seul style. Or, j'avais remarqué, quand les premières années où je m'amusais, quand j'étais à Rome, à observer les réactions des gens qui venaient, de mes amis et des gens qui venaient à Rome. Et certains avaient une espèce d'horreur de Rome, c'est-à-dire ceux qui venaient de France, par exemple, et qui n'avaient pas connu d'autres, qui n'avaient pas connu l'Orient, par exemple, ou le Grand Sud. Et le style baroque, par exemple, leur faisait tout à fait peur. Et le mélange aussi des styles, des époques, ce qui, au contraire, pour moi, était la plus grande chose importante, la plus grande leçon de Rome. C'est-à-dire le mélange des arbres, des ruines et des maisons modernes. Les palais des empereurs, les petites maisons du Moyen-Âge, les maisons modernes des grands architectes, tout ça se mélangeant avec bonheur et enfin en montrant que l'histoire existe. Et quand on est à Rome, on a un peu une impression fausse, bien sûr, mais quand même vraie, de liberté. C'est-à-dire que tout peut se faire, tout peut advenir, tout peut se rencontrer. Et ça, c'est une chose qui aide à vivre, disons.
Et vous, ici, dans votre grand salon, qui ouvre à la fois sur la place Vittorio Emanuele, et aussi sur des, je sais pas, là, sur des anges, voilà, donne vraiment aussi cette impression d'ouverture sur les temps, le temps.
Oui, ce quartier, c'est qui est le quartier de Sainte-Marie-Majeure et tout près de la gare, est un quartier qui a été longtemps, qui a été tout d'abord un quartier, le quartier de l'unité d'Italie, c'est-à-dire qui a été construit tout à fait au moment de l'unité d'Italie, mais sur des palais qui existaient. Le palais de Mécène, par exemple, il reste une salle de concert près d'ici, très belle. Et on a retrouvé d'ailleurs récemment, enfin non, on ne les a pas retrouvés récemment, on a fait récemment, il y a 10 ans à peu près, un musée nouveau qui s'appelait d'abord des dieux et des machines. Et ensuite, il a changé de nom. Il s'appelle la Centrale Martini. Et il a été fait, ce musée, pratiquement uniquement avec des statues, des sculptures qui ont été retrouvées au moment où l'Esquilino, cette colline-ci, a été construite à la fin du 19e siècle. Et il y a des choses très belles, il y a des muses, il y a des portraits de Dionysos, il y a des quantités de morceaux de temples, et cela a été mis dans une ancienne centrale électrique, très intelligemment repeint, ce qui fait que les machines du 19e siècle servent de fond à ces statues, et il y a quelque chose qui se passe là aussi, qui est de l'ordre de ce que je disais, du mélange romain.
Oui. Et vous parliez aussi de politique, enfin de la situation politique italienne. On est aujourd'hui justement, il s'est passé un grand tumulte et en même temps quelque chose de grave en Italie.
Oui, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, ça s'appelle aussi la confiance, lorsque un gouvernement veut vérifier sa majorité, et alors c'est ce qu'on appelle le vote de confiance. Et il y a eu en même temps un vote de confiance que faisait Berlusconi et un vote de défiance organisé par l'opposition, en particulier celle de Fini, qui est sortie du parti de Berlusconi. Et pour 3 voix, Berlusconi a eu la confiance. Et ça, je veux dire, la confiance à Berlusconi, c'est une expression, c'est une locution insupportable. Disons, je dirais, à la fois invraisemblable et obscène, en 2011 pratiquement. C'est-à-dire que ça fait depuis 1994 que ce personnage a envahi l'espace romain, qui est un personnage vraiment terrible. C'est-à-dire qu'il a introduit en Italie, il n'a pas été le premier, il y a eu déjà Craxi qui avait rompu ce qu'était l'éthique vraiment de la gauche italienne, en étant un socialiste affairiste, homme qui faisant des affaires pour lui-même, et qui a introduit Berlusconi, cet entrepreneur extrêmement louche, dont la fortune était douteuse. On savait pratiquement d'où elle venait, mais à ce moment-là, on n'en parlait pas trop. Et ce règne, on peut parler de règne, de monopole, puisqu'il est extrêmement riche et il possède toutes les télévisions, les siennes personnelles, et aussi il a une mainmise telle sur la télévision publique que l'information en Italie n'existe plus et qu'il est en train aussi petit à petit de supprimer, de réduire l'espace des journaux indépendants. Donc c'est une chose absolument terrible, et je veux dire, ce qui se passe. Et que pour la première fois, il y a eu une très grande manifestation, il y a un état d'exaspération, et c'est intéressant parce que dans les très jeunes générations, les étudiants qui sont en ce moment menacés de ne plus avoir de travail, de ne jamais avoir de travail, il y a un pourcentage le plus haut d'Europe du chômage des jeunes. Et il y a une quantité de jeunes qui ont renoncé même à chercher un travail. Donc c'est une situation épouvantable. Et les étudiants en particulier s'en rendent compte. Et ce sont des gens qui ont grandi en ne connaissant rien d'autre que l'ère Berlusconi. Et tout d'un coup, petit à petit, c'est trop. Il y a une sorte de refus, et qui n'est pas simplement le refus des étudiants. Le refus des étudiants, mais le refus des gens qui ont subi le tremblement de terre de l'Aquila, les gens qui ont subi les horribles implantations de détritus toxiques dans le sud, et les ouvriers qui sont chassés de leur usine. C'est une situation vraiment intenable, et il y a une révolte véritable. Les violences ont été produites sans doute aussi par des gens infiltré, mais il y a aussi une violence qui est en train de naître parce qu'il y a ce sentiment de qu'on n'en peut plus, donc il faut que quelque chose se passe.
Et ces 3 voix sont étranges aussi, non ?
Ces 3 voix ont été achetées, d'ailleurs Berlusconi le dit même clairement, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le marché des vaches, des députés qui n'étaient pas trop convaincus de ce qu'ils faisaient. Je veux dire, beaucoup de députés sont là parce qu'ils sont bien payés et ils n'ont rien à faire. Et qu'il y a une loi électorale telle que pratiquement les députés ne sont plus élus, mais choisis, nommés par les chefs des partis. C'est-à-dire, quand on vote maintenant, on ne vote plus pour quelqu'un, mais pour un parti. Et c'est les dirigeants du parti qui choisissent, ce qui est intolérable. C'est une des règles de base de la démocratie qui est battue en brèche. Donc là aussi, il faut changer cette loi. Donc il y a une série de changements qui doivent absolument être opérés.
Et pendant longtemps, en Italie, les intellectuels avaient vraiment une place, avaient droit de parler, d'intervenir. Aujourd'hui, comment est cette situation, justement ? Quel est leur rôle ?
Le rôle est extrêmement réduit du fait que les journaux libres, disons, sont réduits, que la plupart des gens n'ont les informations, ne prennent les informations que par la télévision. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'informations. Et donc, du coup, le rôle des intellectuels est réduit. Mais malgré tout, il se passe quelque chose, qu'on voit de plus en plus des gens qui lisent. Dans le métro, on ne les voyait jamais. à la différence de Paris. Et maintenant, on voit des gens qui lisent et il y a beaucoup de monde dans les librairies. Le nombre des librairies à Rome, par exemple, a beaucoup augmenté. Elles sont toujours pleines. Et il y a aussi des initiatives très intéressantes avec des réunions ou des conférences d'intellectuels et d'écrivains du monde entier qui sont toujours archi-pleine. Et ça, c'est une espèce... Et il y a aussi les quelques informations, émissions qui arrivent à s'exprimer dans la télévision publique. Il y en a de remarquables. Il y en a peu, mais qui sont remarquables. Et il y a eu, il y a un mois, 4 émissions faites par un remarquable journaliste de télévision qui s'appelle Fabio Fazio et en collaboration avec Roberto Saviano, qui est ce remarquable écrivain qui a dévoilé les mystères de la mafia et de la dranguete napolitaine. Et ils ont fait une émission, mais extraordinairement intéressante, qui a eu plus d'audience que les émissions les plus écoutées, les matchs de football, disons. Il y a eu 10 millions jusqu'à 12 millions d'auditeurs. Et c'était des émissions passionnantes, extrêmement drôles aussi. Il y a eu un discours de Roberto Benigni irrésistible et politique, très fin, très acéré. Et Dario Fo, il y a eu aussi toute une série de gens qui ont appelé, qui ont témoigné, qui donnaient des listes de ce qu'ils voulaient. Ça, c'était un modèle de Umberto Eco, les listes, mais utilisées de façon tout à fait géniale.
Et dans j'ai été surprise aussi de voir qu'il y avait une maison de Dante où on lisait encore Dante régulièrement, on se réunissait pour écouter Dante.
Ça, oui, dans toute l'Italie, il y a encore un culte de Dante. Et ici, moi, je fais partie du conseil de cette maison de Dante, qui est menacée, elle aussi, parce que, je veux dire, étant donné les restrictions qu'il y a gouvernementales sur la culture, sur la recherche et tout cela, je veux dire, il y a des institutions qui voudraient s'emparer de cette maison de Dante, qui est une maison, on n'est pas sûr que Dante y ait habité, mais c'est une maison du Moyen-Âge qui a été reconstruite à la fin du 19e siècle, et qui a été donnée avec la bibliothèque qu'elle contenait, qui était d'un érudit romain. Elle a été donnée comme maison de Dante. Et depuis ce moment-là, depuis 1914, il y a tous les dimanches une lecture d'un chant de Dante. Et c'est évidemment libre. C'est de 11h à midi. C'est pratiquement la seule manifestation romaine, mais peut-être italienne, qui soit toujours à l'heure. Et les gens qui viennent sont des gens de tous les âges. Il y a beaucoup de vieilles personnes qui savent Dante par cœur. Et il y a des très jeunes aussi, des étudiants. Et chaque fois, c'est une surprise de voir cette ferveur qui dure. Il y a aussi une jeune actrice qui est venue, qui sait tout Dante par cœur et qui est le commente et donc qui fait des spectacles quelquefois. Elle les fera peut-être d'ailleurs à Paris, à l'Institut italien aussi. Mais il y a c'est-à-dire qu'on n'a pas en France un écrivain comme Dante qui soit à la fois un écrivain extrêmement savant et érudit, un grand poète. Et en même temps qu'il soit très populaire.
C'est le premier chant de la Divine Comédie, donc dans l'enfer. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. À dire ce qu'elle était est chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. Elle est si amère que mort l'est à peine plus. Mais pour parler du bien que j'y trouvais, je dirai des autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrais, mais j'étais plein de sommeil en ce point où j'abandonnais la voie vraie. Mais quand je fus venu au pied d'une colline, où finissait cette vallée qui m'avait pénétré le cœur de peur, je regardai en haut et je vis ses épaules vêtues déjà par les rayons de la planète qui mène chacun droit par tout sentier. Alors la peur se tint un peu tranquille qui dans le lac du cœur m'avait duré la nuit, que je passais si plein de peine, et comme celui qui, hors d'haleine, sorti de la mer au rivage, se retourne vers l'eau périlleuse et regarde, ainsi mon âme, qui fuyait encore, se retourna pour regarder le pas qui ne laissa jamais personne en vie.
Et vous avez passé, vous, une grande partie de votre vie, finalement, presque 30 ans, à fréquenter la langue de Dante, à la traduire, à écrire sur Dante. Et j'aime bien votre façon de dire aussi que Dante, c'est aussi aujourd'hui, en fait. On peut retrouver des choses de Dante dans notre vie aussi.
Oui, mais des choses, d'ailleurs des choses politiques de Dante, par exemple, ça c'est des choses peut-être les moins connues, de la passion politique de Dante. Et cette passion politique était extrêmement hardie, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « La monarchie », et dans lequel il expliquait que ce qu'il fallait, c'était pratiquement une séparation des pouvoirs, ce qui au Moyen-Âge était absolument inconcevable, c'est-à-dire que le pouvoir religieux et le pouvoir politique soient séparés, au point qu'il imaginait deux grands pouvoirs, le pape, enfin il imaginait, le pape, il n'était pas imaginé, il était là, l'empereur, il y avait l'empereur qui était l'empereur qui venait d'Allemagne et qui régnait aussi sur l'Italie d'une certaine façon, et il voyait ces deux pouvoirs dont aucun des deux n'était subordonné à l'autre, c'est-à-dire que l'empereur était libre dans son domaine, qui était le domaine terrestre, le pape dans le domaine céleste. Le pape devait assurer la félicité céleste des hommes et l'empereur la félicité terrestre. Au point que, pour décrire ces deux pouvoirs, il employait une métaphore tout à fait inventée, disons, et imaginaire, c'est-à-dire les deux soleils. C'est-à-dire que chacun était un soleil qui avait son propre orbite et son propre royaume. Et là, c'est évidemment, quelques années après la mort de Dante, l'Église l'a condamné et a brûlé le livre. Mais c'est quelque chose qui serait utile aujourd'hui aussi, puisqu'il y a des régimes comme le régime islamique dans lequel cette chose-là est inconcevable encore. La séparation de ces pouvoirs, et c'est ce qu'il faudrait dans le monde entier. Dante, là, est un précurseur.
Oui, vous avez raison, Jacqueline Risset, de dire que Dante est un grand poète, parce que même cette utilisation de cette métaphore des deux soleils, elle est constante, il emploie toujours des termes comme ça pour parler de choses concrètes, en fait.
Ah, mais Fellini disait que on lui demandait tout le temps de faire un film sur Dante. Et il disait, mais moi, je veux bien le faire, mais non, je ne veux pas le faire, parce qu'il dit, Dante était tellement un grand visuel que le film, il l'a fait lui-même, c'est pas la peine que je le fasse. Il dit, tout ce que je pourrais faire, ce serait des effets spéciaux, mais ça ne m'intéresse pas. Et en réalité, Dante parle de son expérience, en fait, comme tous les grands écrivains, ce qu'il décrit, c'est lui, en fait, je veux dire, c'est sa propre vie, c'est son expérience, et son expérience d'enfant aussi. Son expérience d'enfant qui a grandi dans les rues de Florence, et aussi à la campagne, et qui a observé et d'extraordinairement près à la fois les phénomènes naturels, le givre, la neige, les inondations, les animaux, les insectes, les fleurs. Et tout ça est extrêmement proche. Et disons, ce qui est frappant dans la Divine Comédie, par exemple, enfin, lui, il l'appelait simplement la comédie, plus modestement, et ce sont ses lecteurs qui l'ont qualifié de divine, mais il disait que ce qu'il décrivait, c'était effectivement ce qu'il voyait. Et il décrit finalement le royaume des morts, l'enfer, puis le purgatoire, puis le paradis, mais c'est un des endroits les plus vivants qu'il y ait, parce que il y a aussi une chose qui est présente chez Dante que en général les illustrateurs n'illustrent pas. Ce sont ce qu'il appelle ce qu'on appelle dans la rhétorique en fait les similitudes, c'est-à-dire les comparaisons développées qu'on a dans toute la poésie antique que Dante reprend. Mais alors ces similitudes, et il les fait pour que le lecteur comprennent, saisissent et voient le monde dont ils parlent. et il fait des comparaisons avec l'expérience quotidienne de ses lecteurs. Et là, ce sont des choses qui sont tellement vivantes que tout le monde qu'il décrit en est vivant lui-même. Et les morts qui parlent sont eux aussi des êtres vivants. On a du mal à penser que ce sont des ombres.
Mmh. Oui, c'est cette joie aussi de voir apparaître les morts d'une façon crue, oui. Présente, toujours oui. Présente.
Oui, les expériences de l'enfer oui. sont extraordinairement tragiques aussi. Il y a cette lorsque dans le troisième chant, tout d'un coup Dante entre vraiment avec Virgile dans l'enfer et il voit, il entend une voix. Enfin, le lecteur lit une voix qui dit "Voi che entrate, lasciate ogni speranza, voi che entrate." Et ce sont des vers très impressionnants. Et après seulement, on comprend que ce sont des mots qui sont écrits sur la porte. Mais le lecteur entend la voix. Et on perçoit aussi la frayeur de Dante. Dante sent ces mots, Dante qui vient visiter l'enfer. Il sait déjà, il a parlé avec Virgile, on a compris que Virgile lui a dit que s'il voulait maintenant qu'il se continue, il fallait aller jusqu'à Dieu, jusqu'à le haut du paradis. Il fallait qu'il traverse l'enfer et le purgatoire. Dante n'est pas extraordinairement enthousiaste de faire tout ce trajet, tout ce détour. Pour lui, c'est un détour. Mais quand il entre en enfer et qu'il est avec, en face de cette voix, « Voi che entrate, lasciate ogni speranza », il dit « Bon, ça veut dire que je ne pourrai plus jamais sortir de l'enfer ». Et à ce moment-là, Virgile le rassure. Mais le lecteur passe à travers cette expérience. Et il a la capacité, Dante, qui est Dante, qui projette le personnage qui s'appelle Dante. Évidemment, c'est pas exactement le même, mais il a la capacité de faire partager au lecteur toutes les émotions, les peurs, les frayeurs, les passions aussi. Lorsque Dante s'évanouit, lorsqu'il voit Francesca et Paolo, les amoureux qui s'aiment au-delà de la mort dans cette tourmente qui les saisit, et il s'évanouit. Comme tombe, je tombais comme tombe un corps mort. Il a cette sorte de mimétisme des morts, mais ce sont ces moments d'émotion totale qui traversent cette expérience, ce voyage. Et puis, il y a l'amour pour Béatrice. Et ça, c'est aussi une chose extraordinaire du paradis que a saisi peut-être un seul de ses illustrateurs, Botticelli. Parce que, en général, les illustrateurs, ils illustrent l'enfer très bien. C'est plein de choses intéressantes, des monstres, des peurs, des tortures, des supplices. Tout ça est très intéressant. Au purgatoire, c'est intéressant aussi. Il y a ce pas, il y a l'ascension de cette montagne, il y a toutes sortes de gens qu'on voit, il y a des situations très différentes, il y a des évocations. Mais au paradis, là... La plupart des illustrateurs abandonnent la partie ou la font comme fait Gustave Doré de façon très édulcorée, c'est-à-dire on voit des personnages en chemise de nuit pratiquement qui sont là immobiles, et, je veux dire, on n'est pas du tout intéressé. Alors que Botticelli a saisi cette intensité amoureuse qu'il y a dans le dialogue entre Dante et Béatrice. Béatrice est un peu plus grande que lui dans les dessins de Botticelli. Il faut dire que Botticelli a passé 10 ans de sa vie à ne faire que ça, à illustrer tous les chants de Dante. Il a fait 100 chants et il avait disparu à Florence, personne ne le voyait plus, il n'avait plus d'argent puisqu'il écrivait, personne ne lui faisait de commandes et puisqu'il se consacrait à cela. Mais c'est un amour, il réduit les personnages à deux. Je veux dire, il n'y a plus personne d'autre. Il y a Dante et Béatrice dans des positions différentes, dans des écoutes différentes. Il y a un moment où Béatrice monte sur l'échelle de Jacob et Béatrice a peur et elle le prend dans ses bras, vraiment, je veux dire. Et il y a toute une série de ces épisodes, disons, jusqu'au moment où, dans le dernier chant, on ne voit plus rien. Il manque le dernier chant. Et où on voit simplement très loin, lorsque Béatrice s'éloigne. Et donc, il y a cette sorte de fin qui n'est pas représentable, disons, pas figurable, on pourrait dire. C'est aussi le fin là, lorsque la vision arrive jusqu'à la fusion totale de celui qui vit cela dans le mouvement de l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Donc il y a cette arrivée qui fait que tout se dissout d'une certaine façon.
Oui, c'est le dernier vers alors, oui. de la comédie, oui. De la Divine Comédie.
Oui. L'amour che muove il sole e le altre stelle.
Ô lumière éternelle, qui seule en toi réside, seule te pense et par toi entendue, et t'entendant, ris à toi-même et t'aime. Ce cercle ainsi conçu qui semblait dans toi, lumière réfléchie longuement, contemplée par mes yeux, à l'intérieur de soi et de sa même couleur, me sembla peint de cette image. Si bien que mon regard était tout en elle. Tel est le géomètre attaché tout entier à mesurer le cercle et qui ne peut trouver en pensant le principe qui manque. Tel j'étais moi-même à cette vue nouvelle. Je voulais voir comment se joint l'image au cercle, comment elle s'y noue. Mais pour ce vol, mon aile était trop faible, sinon qu'alors mon esprit fut frappé par un éclair qui vint à son désir. Ici, la haute fantaisie perdit sa puissance, mais déjà il tournait mon désir, et vouloir tout comme roue également poussée, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles.
Et l'altre stelle.
Ce que vous remarquez aussi, Jacqueline Risset, c'est que la langue de Dante, d'abord, qui est une langue qu'il a inventée, enfin qu'il a vraiment cherché à transformer la langue et tout, en même temps, elle est très proche aussi de l'italien moderne.
Oui, c'est une chose que, en fait, on ne sait pas en général, par exemple en France, où la langue a tellement évolué depuis le Moyen-Âge que le Moyen-Âge est pratiquement indéchiffrable si on n'a pas appris l'ancien français. Le XVIe siècle est difficile et pour les étudiants, même le XVIIe siècle est difficile. Alors que là, la langue italienne n'a pas subi de révolution depuis l'époque de Dante. Et les mots sont... Nel mezzo del cammin di nostra vita, ce sont des mots d'aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. Finalement, il y a des difficultés très grandes dans la langue de Dante. Ce sont des difficultés lorsqu'il invente des mots, oui. Par exemple, qui n'existent que chez lui. Mais il y a aussi les difficultés qui tiennent aux connotations, c'est-à-dire aux choses auxquelles il fait allusion, à toute la problématique de l'histoire de son époque, etc. Donc il y a toutes sortes de choses, mais ce ne sont pas des difficultés, disons, linguistiques. Ce qui fait qu'on peut lire Dante sans notes. Or, je ne sais pas si vous avez présente que comme les éditions italiennes, ce sont, il y a en général 10 vers, je veux dire quelquefois moins, et tout le reste, c'est ces grosses, ces immenses notes qui occupent presque toute la page. Et si on peut lire Dante sans notes, et on s'aperçoit qu'on comprend mieux qu'on aurait pensé. Il y a toutes sortes de choses qui vous échappent, mais ça ne fait rien. On perçoit le mouvement extraordinaire, le rythme, la musique de cette langue.
Oui, vous avez vraiment donné dans votre traduction d'ailleurs ce côté presque charnel, sensuel de la phrase, du vers de Dante.
Moi, il me semble que traduire Dante en prose, c'est vraiment une erreur. Parce que, enfin, c'est une façon de faire passer certaines choses. Il faut les faire passer. Mais c'est tellement important chez Dante, le rythme. Enfin, la poésie donne d'autres sens en plus du sens. Et là, le rythme de Dante est magnifique parce qu'il est extrêmement libre. Et c'est pour ça que traduire Dante aussi dans une prosodie classique, c'est une erreur, d'autant plus que la prosodie française est beaucoup plus rigide que la prosodie italienne. Les poètes français en tirent des effets extraordinaires. Je veux dire, Racine, avec très peu de mots et toujours cet alexandrin terriblement symétrique, arrive à créer une poésie merveilleuse. Mais je pense que là, pour Dante, pour traduire Dante, je m'en suis aperçue en le traduisant que la prosodie moderne, c'est-à-dire moi j'écrivais de la poésie dans une langue actuelle et je me suis aperçue que cette prosodie-là permettait d'approcher Dante beaucoup plus que les prosodies classiques. Et c'est-à-dire que je me suis aperçue aussi que l'archaïsme qu'ont fait certains traducteurs, c'est aussi une double erreur parce que une traduction, c'est chaque fois une réinterprétation d'un texte. Et cette interprétation, on la fait en fonction de sa propre culture, de sa propre vision, de son propre temps. Et en même temps, en plus, Dante, non seulement il écrivait sa propre langue, mais il l'a créée. C'est-à-dire à partir du vulgaire, à partir de florentin, mais à partir aussi des autres dialectes, ce qu'on appelait les langues vulgaires par rapport au latin, et il les mélangeait et il les inventait, et donc il était projeté vers le futur, oui. Pas pour le passé. Ça n'intéressait pas l'archaïsme du tout. Et donc, il faut respecter ça quand on écrit. Il faut être irrespectueux d'une certaine façon. Je pense que la traduction a besoin de respect, certes, mais aussi d'irrespect, parce que le respect paralyse. On pense Dante, c'est extraordinaire, donc il faut pas y toucher, ou alors il faut rendre dans sa traduction cet aspect monumental. Mais le monument est en marche. Je veux dire, c'est un monument qui se détruit lui-même d'une certaine façon pour s'inventer. Donc, si on veut être proche de lui, il faut aussi s'éloigner, parce que de toute façon, on ne recrée jamais la même chose. C'est une utopie assez même ridicule de croire qu'on va reproduire Dante. Non, le français a fait des choix différents dans les possibilités linguistiques du langage général. Et c'est avec cette langue-là, je me suis aperçue, par exemple, qu'il y avait des difficultés quand je n'arrivais pas à traduire un mot, un vers. Et ce qui me donnait la solution, c'était la mémoire que j'avais de Rimbaud ou de Baudelaire, etc. Ce sont les inventions qui ont déjà eu lieu dans cette langue, et il y a des inventions merveilleuses.
Apollinaire aussi,
qui est celui qui continue, on peut dire, la ligne de Racine, c'est-à-dire l'eau, presque, capacité qu'a le français d'être presque transparent. Et une des ressources du français, par exemple, c'est le muet. Pourquoi est-ce que c'est une ressource? Je pense que, et ça, il y a quelqu'un qui l'a dit très bien, c'est Rémy de Gourmont, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, qui a montré comment, désormais, déjà à son époque, le e muet avait divers temps. Il était dans certains cas réduit à presque rien, ou d'autres fois à avoir l'équivalent d'une syllabe entière. Et donc, il fallait jouer avec cette possibilité de la langue française.
Ce qui est intéressant aussi, Jacqueline Risset, c'est que vous avez aussi travaillé sur Proust. Nous en avons parlé dans un carnet précédent. Mmh. Et on peut se demander justement si cet immense voyage de Dante n'est pas aussi une recherche finalement.
Ah, mais je sens beaucoup de proximité entre les deux. Disons, d'abord du côté de Proust, cette recherche qu'il fait, c'est une recherche qui est comme celle de Dante, cyclique. C'est-à-dire que elle finit au commencement. disons. C'est lorsque il finit dans les dernières pages du temps retrouvé, Proust explique qu'il va pouvoir commencer à écrire. Il va pouvoir commencer une fois qu'il est en train de saisir ce qu'il saisit. Et de la même façon, Dante dit à la fin du paradis qu'il faut qu'il retourne sur Terre, voilà, pour raconter. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'au moment où Dante est dans le paradis, dans cette Dolce Vita, c'est comme ça que les heureux, les bienheureux définissent leur état de bienheureux. Eh bien, il est occupé à l'idée de retourner à Florence et de raconter ce qu'il a vécu. Ce que d'ailleurs lui dit Béatrice quand elle le rencontre à la fin, en haut du paradis terrestre, qui est le haut de la montagne du purgatoire. Elle le rencontre, elle lui fait des reproches très violents, et il se met à pleurer parce qu'elle lui dit « Mais j'étais à peine morte, que au lieu de continuer à m'aimer, je veux dire, comprendre que j'étais dans le vrai royaume et que ma beauté serait encore plus grande, tu t'es occupée d'une petite, je veux dire, elle lui fait une vraie scène de jalousie, ce qui est assez amusant d'ailleurs, je veux dire, de liberté de Dante par rapport à tous les dogmes, disons. Et Dante se met à pleurer, et après quoi, elle se réconcilie quand même, elle est sur son char, et elle lui dit, ce que tu vois, ne l'oublie pas, et raconte-le quand tu seras rentré à la maison, disons. Et Dante, quand il traverse le paradis à toute vitesse, en volant entre les sphères, il y pense sans cesse, et il sait que c'est son devoir de raconter. Comme Proust a ce même devoir, et tous les deux font une traversée, lorsque le temps retrouvé, c'est l'équivalent du paradis, si l'on veut. Il parle aussi de Proust d'enfer. À un certain moment, à propos des organisations de la société, il en découvre les derniers cercles. Il parle aussi de Dante. Et là, il est, comme les très grands, très libre. C'est-à-dire que ce qu'il voit aussi dans la Divine Comédie, ce sont des choses qu'en général les lecteurs ne voient pas. Par exemple, lorsqu'il raconte qu'il est avec ses parents en train de faire la promenade du dimanche au bord de la rivière, la Vivonne, qui est tout près de Combray, eh bien, il est fasciné par le mouvement des nénuphars qui suivent le courant et puis reviennent, et puis repartent et reviennent sans cesse, comme les damnés de l'enfer de Dante. Et il dit, et à ce moment-là, mes parents m'appellent pour que je les suive, comme Virgile fait le reproche à Dante de s'arrêter à contempler les supplices. Et là, on sent que Proust perçoit en quai, lui aussi, cette complexité, disons, cette ambiguïté même qu'il y a dans le regard de Dante. C'est Peggy qui disait que Dante était une sorte de touriste qui visitait. C'est pas du tout un touriste, je veux dire. C'est quelqu'un qui est complètement pris dans ses spectacles, qui a quelquefois des émotions qui le jettent par terre, ou il a quelquefois des attirances. Et Virgile parle à un autre moment un moment précis de l'enfer, quand il regarde les spectacles de l'enfer. Virgile lui dit qu'il a la bassa voglia, un bas désir. Et donc, Proust surprend chez Dante le bas désir, ce que ne voient pas en général les lecteurs, parce qu'il sait qu'il y a une traversée à faire, une traversée qui ne se fait pas toute seule, et qu'il y a des tentations dans cette traversée. Ancinotto come amor lo strinse. Sospinse quella lettura e scolorò cinque.
Voici aussi le début du chant 13 du Paradis. Qu'il imagine celui qui veut comprendre ce que je vis alors et qu'il garde l'image tant que je parle comme un roc, 15 étoiles en divers points du ciel qu'il avivait d'une telle clarté qu'elle dissipe toute épaisseur de l'air. Qu'il imagine le chat à qui l'espace de notre ciel suffit nuit et jour et qui ne s'efface pas quand tourne son timon. Qu'il imagine la bouche de ce corps qui commence à la pointe de l'axe autour de qui tourne la roue première, ayant formé deux signes dans le ciel, comme les fit la fille de Minos lorsqu'elle sentit la glace de la mort. Qu'il imagine que l'un est ses rayons dans l'autre et qu'ils tournent tous deux de telle manière que l'un aille en avant, l'autre en arrière. Alors, il aura presque une ombre de la vraie constellation et de la double danse qui tournait autour du point où j'étais. Car elle est aussi loin de notre usage qu'est loin du cours de la Kiana, la vitesse du ciel qui va le plus vite. Quel âge avait Dante? Il avait 30 ans, 35 ans 35 ans quand il a commencé cette recherche, j'allais dire, ce voyage.
Il est né en 1265 et il commence vers 85-90, c'est-à-dire il n'est pas vieux. Mais 35 ans, c'est 1300. C'est l'année du jubilé qu'a fait Boniface VIII, donc à Rome, et c'est l'année qu'il choisit pour situer son voyage en enfer, et il le situe à la moitié de la vie. C'était 35 ans, la vie étant considérée comme 70 ans, mais en réalité, il aura beaucoup moins que cela à vivre après, puisqu'il vivra encore 21 ans après cette date. Et comme Proust d'ailleurs, ce sont des écrivains jeunes finalement.
Oui, c'est vrai.
On oublie cela. Quand on pense à Dante, on pense à cette accumulation d'expérience, à cette et puis aussi les portraits qu'on a de Dante. Celui qui est devant le Collège de France à Paris, on a une impression de pauvre vieillard tout courbé, alors que Dante n'était pas vieux. Et donc, il était aussi extrêmement ardent et énergique. Et il y a un seul portrait, à ma connaissance. Il y a les portraits de Giotto, qui est probablement aussi le plus réaliste, disons. Mais il y a, qui est beau, qui est au Bargello. Et puis, il y a une statue qui n'a jamais été réalisée à l'échelle qu'elle devait avoir, mais il y a une sorte de maquette, enfin une sorte de projet, qui est dans la maison de Dante à Rome, où Dante est à cheval, jeune, et c'est Dante dans la bataille à laquelle il a participé, et il s'appuie sur son bouclier. Mais son bouclier a la forme d'un livre en même temps. C'est déjà la Divine Comédie. Mais on a toujours cette représentation finalement fausse de Dante était jeune. Et Virgile aussi. Et il y a ces deux personnages qui circulent dans le purgatoire à travers tous les royaumes de l'au-delà et qui sont des personnages en définitive jeunes.
On pourrait peut-être sortir un peu, Jacqueline Risset, parce qu'il fait très, très beau. J'ai vu qu'en bas, juste en bas, il y a un petit marché, il y avait une diseuse de bonne aventure, je ne sais pas, avec des cartes.
Elle est toujours là. C'est le personnage le plus immuable de ces galeries, de ces portiques. Elle est toujours là et elle dit l'aventure et les gens l'écoutent religieusement. Je ne sais pas ce qu'elle dit, mais elle le dit de façon extrêmement persuasive, il semble.
Mi porti frutta fresca e color.
ingegni a darmi amore, ti ingegni a darmi amore, mi parli un italiano d'amore, furtivo e tentatore, gentile come un fiore, fino che splendore. Splendore, luna,
come ha fatto?
Splendore, luna, luna,
ciao, ciao, vera, signora, Dio, ciao, buona benedica. Ieri io sta male troppo. Io ce l'hai asma, addio pertanto troppo sta male, signora. Addio Santa Maria. Signora, addio pertanto.
Voilà, c'est une journée qui. Une journée romaine qui continue avec vous, Jacqueline Risset. Et par ce froid ensoleillé.
Oui, et nous sommes au Temple de Mécène. C'est le nom d'un restaurant qui est en face de l'auditorium de Mécène, c'est-à-dire où Mécène organisait des concerts. Et c'est un endroit très beau, une espèce de construction ronde et en briques. Et à l'intérieur, tout est sombre et fermé, mais il y a des fausses fenêtres qui sont décorées de fresques. Et les fresques représentent ce qui est à l'extérieur, un arbre avec un oiseau sur la branche dans chaque fenêtre. Et c'est un endroit qui est à l'Esquilin, je veux dire, et qu'on peut visiter. Et quelquefois, on y lit et on y fait des concerts encore aujourd'hui.
Oui, c'est tellement étonnant cette ville où tout est, où les noms qu'on a oubliés presque représentent des temples, comme Mécène, on ne savait pas qui était Mécène.
Oui, non, là, ici l'histoire est visible et les gens gardent même eux des noms anciens, Oreste, etc. Je veux dire, tout le monde s'appelle, peut s'appeler à son choix, Virgile. Enfin au choix de ses parents, Virgile, il y en a beaucoup de Virgile. Il y a des Dantes aussi, bien sûr, des prénoms Dantes. Et c'est un endroit où on sent encore, enfin au moins dans certains quartiers, parce que d'autres ont changé beaucoup. Le centre a été un peu colonisé à la fois par le tourisme et par les personnages de la politique qui y habitent et qui transforment un peu l'espace. Mmh. Il n'y a plus la même douceur, il n'y a plus la même invention qu'il peut y avoir ailleurs.
Et vous-même ici, vous êtes à la fois enseignante, vous travaillez toujours sur Dante, mais vous écrivez aussi des poésies.
Ah ben je continue, oui, c'est même peut-être ce qui est pour moi le centre au fond. C'est-à-dire que, et là j'ai publié en Italie au mois de février, une anthologie de poèmes à qui j'ai donné le titre de Il tempo dell'istante, le temps de l'instant, parce que finalement c'est pour moi le centre même de la poésie. Il me semble que c'est la poésie qui est le plus en mesure de décrire ce point du temps donc qui n'est pas du temps, qui est en même temps. On peut reprendre ici la formule de Proust, c'est à la fois un peu de temps à l'état pur et en même temps l'absence du temps, ce qui est hors du temps. Et c'est chaque fois ce type d'expérience qui pour moi sollicite le désir d'écrire et la nécessité d'écrire. Ça n'est pas garanti, à chaque fois on ne sait pas si on va pouvoir transmettre, traduire cet élément, ce point. Mais c'est là le jeu, c'est là le pari.
C'est-à-dire que c'est à partir d'un instant ou d'un motif ?
Oui, c'est à partir d'une saisie de ce point qui fuit, qui échappe. Et donc, il n'y a que les mots qui peuvent le rattraper. Et évidemment, le fait de ne pas avoir l'aspect progressif qu'a la phrase, mais d'être libre dans la syntaxe, dans les mots eux-mêmes, de créer des associations entre des mots qui ne se connaissaient pas ou qui n'étaient pas faits pour se fréquenter, disons, c'est ce qui est un peu exaltant dans le fait d'écrire de la poésie. C'est qu'on expérimente toujours un peu au-delà. Un des derniers livres de Bonnefoy, son dernier petit livre de poèmes, s'appelle « Raturer outre ». Ce qui est une très belle formule de l'écriture poétique. On est toujours en train de gommer, d'effacer, de griffer nerveusement la page. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut aller outre. Parce qu'on est toujours en marche vers l'au-delà de la page, en fait, vers cette espèce de griffure qui déchire un peu le voile dans lequel l'existence est prise, et on ne peut pas faire autrement qu'elle soit prise. Mais en même temps, il y a ce désir et cette nécessité, si on veut, de ces brisures, de ces déchirements du voile par où quelque chose apparaît.
Sui ponti di Roma, gli amanti sono tanti, ma quanti? Nessuno lo sa, e parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti? Chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando riprende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, si sa.
C'est la fin de ce carnet nomade, un jour avec Jacqueline Risset. Merci à vous, Jacqueline Risset. Donc, je rappelle que vous avez traduit et présenté La Divine Comédie de Dante, une édition de Garnier Flammarion. Je signale aussi vos poèmes Les Instants chez Farago et Une certaine joie, un essai sur Proust chez Hermann.